Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, tout ce qui se passe maintenant et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Les premiers vaccinés par le vaccin Astra ont souvent présenté des effets indésirables et c'est certainement de nature à freiner l'ardeur des médecins généralistes.
Ils demandent depuis des semaines à pouvoir vacciner, mais seulement un tiers des médecins généralistes ont demandé à recevoir des doses. En cause, vous venez de l'entendre, un vaccin AstraZeneca qui ne fait pas l'unanimité. Le conseil scientifique s'agrandit. L'instance chargée de conseiller l'exécutif sur la gestion de l'épidémie accueille 4 nouveaux membres, dont un vétérinaire, nous l'entendrons. Ne surtout pas crier victoire, voilà le message du gouvernement. Alors que le nombre de contaminations a baissé de 10% la semaine dernière, la situation sanitaire est si fragile car rien ne peut la faire changer, prévient Gabriel Attal. Le procès en appel de Georges Tron, accusé de viol et agression sexuelle, les jurés viennent de finir de délibérer et la cour va rendre son verdict dans les prochaines minutes. Il a passé 8 heures aujourd'hui en garde à vue. L'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, est soupçonné d'avoir favorisé certains de ses collaborateurs. La mairie les payait alors qu'ils auraient dû être à la retraite. Dans ce journal également, la commission des lois du Sénat dit non au vote par anticipation pour la prochaine présidentielle. La ministre de l'Enseignement supérieur veut mener une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université. Les chercheurs sont atterrés, tout comme les supporters de l'OM en pleine crise. Marseille affronte en ce moment Nice. Qu'est-ce que ça donne, Stéphane Frangy?
Et le réveil de l'OM qui mène 2-0 à la pause.
Merci Stéphane et à tout de suite. La météo, elle sera un peu plus humide et nuageuse demain en raison du passage d'une perturbation, mais les températures vont rester douces, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en baisse, moins 0,36% à 5 765 points. Et tous les détails à venir avec Didier Hameau de boursier.com. L'interview éco, dans 20 minutes, nous n'avons jamais autant utilisé Internet. Notre consommation a explosé à cause des confinements et du télétravail. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Bertrand Krug, directeur du département Internet de Médiamétrie. Et puis, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nous aussi, on peut vacciner. Depuis quelques mois, les médecins généralistes demandent à être impliqués dans la campagne de vaccination. Ce sera le cas à partir de jeudi de la semaine prochaine, le 25 février. Ils pourront commencer à piquer dans leur cabinet avec le vaccin AstraZeneca. Encore faut-il qu'ils se soient inscrits sur les listings des pharmacies qui réceptionnent les doses. Ils ont encore une demi-heure pour le faire, mais on peut d'ores et déjà dire, Victor Delande, que les médecins généralistes ne se sont pas bousculés pour obtenir des flacons.
Oui, ils auraient eu l'information un peu tardivement, vendredi dernier, alors que la date butoir pour les commandes, c'est ce soir. Au total, 700 000 doses seront disponibles dans 5 à 6 jours. C'est donc 70 000 flacons du vaccin AstraZeneca, un seul par médecin généraliste la semaine prochaine. Mais selon nos informations, 17 000 médecins de ville ont passé des commandes sur un peu plus de 50 000 professionnels. Ça fait 1 sur 3. Jacques Battistoni, président du syndicat Médecins Généralistes de France, avance 2 raisons pour expliquer ce faible engouement.
Premièrement, parce que le vaccin est un peu moins efficace que le vaccin Pfizer. Et ils se disent finalement, est-ce que ce n'est pas mieux d'attendre d'avoir d'autres vaccins? C'est des questions qui peuvent se poser. Et puis aussi, vous avez entendu cela à plusieurs reprises, dans les hôpitaux notamment, les premiers vaccinés par le vaccin Astra ont souvent présenté des effets indésirables et c'est certainement de nature à freiner l'ardeur des médecins généralistes.
Je rappelle que les médecins généralistes devront sélectionner dans leur patientèle les personnes de 50 à 65 ans qui ont des facteurs de risque, hypertension, problèmes cardiaques, malades du cancer et personnes obèses. Ce sont ces personnes qu'ils vaccineront en priorité avec le vaccin AstraZeneca à partir donc de la semaine prochaine. Sauf qu'au rythme des commandes passées, ils ne vaccineront pas grand monde dans leur cabinet.
Victor Delande du service Société d'Europe 1. Si le vaccin AstraZeneca fait face à quelques réticences, celui de Moderna, en revanche, rencontre un franc succès, à tel point que l'Union européenne en redemande. Bruxelles et le labo américain ont conclu un contrat pour la fourniture de 300 millions de doses supplémentaires. La moitié d'entre elles seront livrées avant la fin de l'année. Cela faisait plus d'un mois qu'on était sans nouvelles du conseil scientifique, disparu des radars depuis son dernier avis du 13 janvier. Étonnant, alors que la situation sanitaire en France reste inquiétante. Eh bien non, le conseil scientifique n'est pas mort. La preuve, il vient de recevoir le renfort de 4 nouveaux membres. Une infectiologue, une pédopsychiatre, un gériatre et un vétérinaire. Thierry Lefrançois, c'est son nom, qui nous explique quel sera son rôle.
Quand on se pose des questions sur la transmission, quand on se pose des questions sur la façon de gérer cette épidémie, cette pandémie, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui va pouvoir à la fois apporter sa propre perspective et puis en même temps faire le lien avec des spécialistes des coronavirus sur les animaux, des spécialistes de la gestion de crise dans le domaine santé animale, parce que le ministère de l'Agriculture a été confronté à plein de crises à travers l'histoire, beaucoup, j'allais dire plus pratiquement que le ministère de la Santé. Donc voilà, c'est le système de pont donc, qui va accélérer ou augmenter l'efficacité, à mon avis, et une capacité de chercher les réponses qu'on peut se poser.
Le vétérinaire Thierry Lefrançois, nouveau membre du Conseil scientifique, propos recueillis par Mathieu Charrier pour Europe 1. Baisse des hospitalisations, baisse du nombre de contaminations. Depuis quelques jours, la tentation est grande de crier victoire. Le pari de ne pas reconfiner semble pour l'heure fonctionner. Pour autant, l'exécutif se garde de tout triomphalisme. À la sortie d'un nouveau Conseil de défense sanitaire, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, appelle les Français à la prudence.
Au niveau national, le nombre de cas détectés par jour a légèrement diminué, en moyenne de près de 10% sur une semaine, et le nombre de patients hospitalisés a très légèrement décru. Pour autant, il serait totalement déraisonnable de relâcher nos efforts et de crier victoire. La pression hospitalière reste forte, reste très forte, en particulier dans les services de réanimation. Nos soignants continuent à être sur le pont sans relâche et la situation reste si fragile qu'un rien peut la faire basculer.
L'avertissement de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui pour l'heure maintient donc le statu quo concernant les mesures restrictives. Pas de renforcement ni d'assouplissement. Cela n'empêche pas la ville de Bordeaux de tenter sa chance. Son maire, Pierre Urmic, demande officiellement l'autorisation de rouvrir ses musées. L'élu souhaite tester un protocole sanitaire renforcé avec 10 mètres carrés par personne et des horaires décalés. Proposition faite par courrier à la ministre de la Culture.
Écoutez le monde changer. Europe Soir. Le 22-22-30.
Un coup de tonnerre, un de plus sur la Canebière. Jean-Claude Gaudin a passé la journée en garde à vue. Elle a été levée dans la soirée. L'ancien maire de Marseille a été entendu pendant 8 heures dans le cadre d'une information judiciaire pour détournement de fonds publics. Justin Morin, que lui est-il reproché exactement ?
Le parquet national financier s'intéresse aux rémunérations octroyées par Jean-Claude Gaudin à son premier cercle, ses plus proches collaborateurs, dont certains ont continué leur activité alors qu'ils avaient dépassé l'âge légal de la retraite. Sont cités par exemple Claude Bertrand, le directeur de cabinet historique de l'ancien maire, lui aussi placé en garde à vue aujourd'hui selon nos confrères de la Provence. D'autres noms moins connus étaient maintenus dans leur fonction en tant que chargé de projet pour le cabinet de Jean-Claude Gaudin. C'est le cas par exemple de Solange Moll, 82 ans au moment de son départ en 2017. Décédée depuis. Une autre était en charge des relations publiques avec plus de 77 ans. Les enquêteurs vont chercher à savoir quelles étaient précisément leurs missions. L'enquête est ouverte depuis 2019 et ce qui est intéressant, c'est que cette même année, un rapport de la Chambre régionale des comptes avait aussi épinglé la gestion de la ville par Jean-Claude Gaudin. 4 pages sont consacrées à ses proches collaborateurs, employés, je cite, en dehors de tout cadre légal. En tout, une quinzaine de noms sont cités. Selon le rapport, le préjudice est estimé à 1 million d'euros pour les contribuables marseillais.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1. Un verdict, enfin, au procès en appel de Georges Tron, poursuivi pour viol et agression sexuelle. Après 11 heures passées à délibérer, les jurés de la cour d'assises de Paris sont enfin parvenus à s'entendre. Résultat, Marion Dubreuil, le maire de Draveil, vient d'être reconnu coupable.
Oui, Georges Tron a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, et une peine d'inéligibilité de 6 ans, ainsi qu'une inscription au fichier automatisé des délinquants sexuels. Il a été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol en réunion sur l'une des deux plaignantes, Virginie Etel, qui dénonçait 2 scènes de viol en novembre 2009 et janvier 2010. Il a en revanche été acquitté pour les faits concernant l'autre plaignante, Eva Loubrieux, qui vient d'ailleurs de quitter la salle en larmes. Jean Jotron est resté droit comme un i à l'énoncé de ce verdict. Son ex-adjointe à la culture, Brigitte Gruel, elle aussi a été reconnue coupable de complicité de viol en réunion et d'agression sexuelle en réunion. Elle a été condamnée à 2 ans de prison avec sursis. 11 heures de délibéré, c'est le temps qu'il a fallu aux 9 jurés, aux 3 juges professionnels pour condamner Georges Tron dans ce dossier tentaculaire, avec une cinquantaine de témoins qui ont défilé à la barre pendant près d'un mois d'audience, avec une question au cœur de ce dossier, celle du consentement. L'avocat général avait proposé de retenir l'emprise comme clé pour caractériser la contrainte dans des relations sexuelles forcées, l'emprise d'un patron sur ses employés. C'est le point final d'une procédure qui a débuté par 2 plaintes pour viol il y a plus de 10 ans, qui a été marquée par des décisions contradictoires, un non-lieu, un renvoi devant les assises et un acquittement en première instance. Et désormais, 7 condamnations en appel.
Merci beaucoup Marion Dubreuil en direct de la Cour d'assises de Paris pour Europe 1. Venons-en maintenant à cet amendement surprise que le gouvernement a sorti de nulle part. Amendement déposé au Sénat pour permettre le vote par anticipation pour l'élection présidentielle de 2022. Autrement dit, les Français qui le souhaitent pourraient voter la semaine précédant le scrutin sur des machines électroniques. Ce serait du jamais vu en France où depuis toujours on vote tous le même jour, un dimanche et dans un isoloir. Et cela risque bien de rester ainsi vu que cet amendement, Claudia Bertram, les sénateurs l'ont massivement rejeté aujourd'hui en commission.
Oui, premier test ce matin, premier tollé, la commission des lois a massivement rejeté cet amendement. Déposé hier au dernier moment, le président des LR Bruno Retailleau y voit une manœuvre politique.
Ça arrive au bout du bout de l'examen d'un texte sans le contrôle du Conseil d'État, alors qu'il s'agit quand même de l'élection du président de la République. Donc ça n'est ni une méthode. Et ça sent la magouille finalement.
Une méthode qui fait tiquer jusque dans la majorité. Écoutez le sénateur LREM Alain Richard.
Je reproche au gouvernement d'avoir introduit ce texte de façon trop improvisée.
L'amendement doit encore être débattu demain en séance publique. Et pas de doute pour le centriste Hervé Marseille, il devrait à nouveau être rejeté.
C'est quelque chose qui aurait pu être discuté, mais la façon dont le gouvernement s'y est pris annule toute discussion. Il n'y aura pas photo demain. Et donc, retour à l'envoyeur.
S'il est rejeté, son parcours législatif prendra en théorie déjà fin. Seul moyen de porter à nouveau le vote par anticipation dans le débat, redéposer un nouveau texte de loi. La difficulté, c'est que le gouvernement s'est mis la classe politique. Ado et même l'AMF, l'Association des maires de France. Un conseiller ministériel le reconnaît. Techniquement, il y a toujours une voie explorable. Politiquement, j'en suis moins convaincu, dit-il.
Claudia Bertram, du service politique d'Europe 1. Et puis toujours au Sénat, Jean Castex a fait une promesse. Il n'y aura pas de zone sans contrôle d'identité. C'était une proposition de la défenseure des droits qui, à ces derniers jours, provoquait un tollé chez les syndicats policiers. Autre tollé, celui provoqué par la ministre de l'Enseignement supérieur. Frédérique Vidal estime que l'islamo-gauchisme gangrène les universités françaises. Elle a demandé au CNRS une enquête sur l'ensemble des recherches qui se déroulent dans notre pays. Objectif, distinguer ce qui relève de la recherche académique et ce qui relève du militantisme et de l'opinion. Pour Jean-Pascal Simon, le secrétaire général de Suprecherche UNSA, syndicat de l'enseignement supérieur, c'est tout simplement aberrant.
Je ne comprends pas qu'une ministre puisse dire cela. On est encore en train de mettre le feu aux universités, de jeter le doute et la défiance sur un certain nombre d'universitaires, notamment dans les sciences humaines et sociales, et puis même sur le terme d'islamo-gauchiste. C'est un concept qui est quand même largement discuté, souvent utilisé pour stigmatiser, qui a tendance plutôt à renforcer des tendances identitaires dans notre société et pas du tout un dialogue apaisé. Aujourd'hui, les universitaires ont besoin davantage de soutien, qu'on assure qu'ils aient leur liberté académique. C'est un des principes de l'université, c'est-à-dire que les universitaires ont le droit de s'exprimer sur tout, de faire des recherches sur tout, pour peu qu'ils respectent une attitude critique sur les travaux qu'ils font. Aujourd'hui, dans une situation compliquée, on n'a pas besoin d'une polémique supplémentaire en ce moment.
Jean-Pascal Simon du syndicat Suprecherche UNSA, joint pour Europe 1 par Johanna Chabas. À l'étranger, 2 informations à retenir. L'hospitalisation du prince Philippe, l'époux de la reine Elisabeth II, a été admis mardi soir dans un hôpital londonien après s'être senti indisposé. Hospitalisation qui n'est pas liée au Covid, précise le palais de Buckingham Palace. Le duc d'Édimbourg a 99 ans. Et puis un nouveau rapt d'élèves au Nigeria. 42 personnes, dont 27 enfants, ont été enlevées la nuit dernière dans un pensionnat par des hommes armés. Il y a 2 mois, 344 adolescents avaient été enlevés dans des conditions similaires. Ils avaient été libérés après une semaine de captivité. Revenons maintenant en France avec cette première dans notre pays. Une femme de 36 ans qui a bénéficié d'une greffe de l'utérus a donné naissance vendredi dernier à un bébé. Une petite fille d'1,8 kg qui, malgré son faible poids, se porte comme un charme, tout comme la maman. Née sans utérus et donc dans l'impossibilité d'avoir des enfants, elle avait reçu il y a 2 ans l'organe d'une donneuse vivante, en l'occurrence celui de sa propre mère. On termine avec le foot et ce contraste saisissant entre 2 des plus grands clubs français. D'un côté, le Paris Saint-Germain, extatique après avoir torpillé le Barça hier soir, et de l'autre, l'Olympique de Marseille qui depuis plusieurs semaines se torpille tout seul. Dernier événement en date, un courrier envoyé par la direction au groupe de supporters, courrier de mise en demeure 2 semaines après le violent envahissement du centre d'entraînement. Et c'est dans ce contexte très tendu que les joueurs de l'OM sont en train d'affronter l'OGC Nice, match en retard de la 11e journée de Ligue 1. Stéphane Frangy, vous êtes en direct du Vélodrome pour Europe 1 et ça se passe plutôt bien pour les Olympiens.
Ouais, ils n'ont pas l'air perturbés effectivement par ce contexte. Marseille qui mène donc 3 buts à 1 face à l'OGC Nice au Vélodrome. On approche de l'heure de jeu et l'homme du match c'est Saïf Eddine Kawi, un garçon de l'ombre qui était plutôt habitué au banc de touche, qui profite un petit peu des nombreuses absences sur l'once de départ de Marseille, puisque on rappelle que les joueurs qui sont arrivés à l'intersaison ne sont pas qualifiés. On rappelle qu'il y a des exclus, il y a des gens qui reviennent de blessures, beaucoup d'absences à pallier et donc Kawi qui est sur tous les ballons, qui se bat comme un beau diable. Le doublé, donc un but en première période, un but en seconde. Les autres buteurs, Alvaro González, le défenseur qui avait ouvert le score pour les Marseillais. Puis là, en deuxième mi-temps, il y avait une réduction du score de l'OGC Nice par Amine Gouiri. Marseille qui fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match où Marseille joue vraiment en équipe, combine, réussit des choses. Il y a de la volonté, enfin voilà, tout un tas de choses qu'on ne voyait plus. Nasser Larguet a laissé sa chance finalement à tout un tas de joueurs qu'on ne voyait pas parce qu'ils étaient un petit peu au banc, parce qu'ils étaient peut-être un petit peu jeunes, et ils prennent pleinement leur chance. Voilà, Marseille qui se réveille face à un mal classé. En tout cas, le spectacle est pas mal à l'heure de jeu. 3 buts à 1 pour Marseille.
Merci beaucoup Stéphane Frangy, en direct du stade Vélodrome à Marseille pour Europe 1. Stéphane que l'on va retrouver dans quelques minutes à la fin de cette édition. On passe à la météo, Anissa Haddadi. Le temps demain sera un peu plus humide.
Oui Julien, demain nous avons une petite perturbation qui va traverser le pays. Alors c'est vrai que la journée de demain sera beaucoup moins agréable que celle d'aujourd'hui, puisqu'en début de journée sur les pays de la Loire et jusqu'à la Normandie, c'est de la pluie. À l'avant de la perturbation, de la région parisienne jusqu'au Grand Est, là nous aurons un ciel couvert avec quelques petites gouttes possibles. Et puis en Alsace, les brouillards seront nombreux demain matin. Soyez prudents au bord de la Méditerranée. Toujours beaucoup d'entrées maritimes demain matin, un ciel donc assez couvert et une atmosphère humide. Dans l'après-midi, les éclaircies arrivent dans le nord-ouest, c'est un ciel de traîne qui se met en place. La perturbation, elle continue d'avancer sur le pays et nous avons cette fois-ci de la Gironde jusqu'à la Bourgogne, de la pluie pour toutes les régions concernées. Sur le Lyonnais, l'Auvergne et le sud-ouest, nous avons le vent qui se lève et qui souffle jusqu'à 70 km/h. Les températures, elles sont stationnaires demain matin avec 0 à 11 degrés le matin et puis 10 à 21 degrés au meilleur de la journée. 10 degrés pour Dunkerque, 12 à Paris et Rennes, 14 pour Lyon, 15 à Marseille et Vesoul, 18 pour Bordeaux et Clermont-Ferrand et la maximale est prévue à Pau avec 21 degrés.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Didier Hamot de Boursier.com, suivi de l'interview Echo. Nous n'avons jamais autant utilisé Internet. Notre consommation a explosé ces derniers temps à cause des confinements et du télétravail. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit dans quelques minutes Bertrand Krug, directeur du département Internet de Médiamétrie. A tout de suite sur Europe.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, bienvenue à tous, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec vous Didier Hamot de Boursier.com, bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Après les records des dernières séances, Wall Street refuse d'aller plus haut ce soir.
Oui, un marché un petit peu coupé en deux. Wall Street cherche de nouveaux catalyseurs pour aller plus haut effectivement. Le Dow Jones quand même en hausse de 0,29%, une toute petite hausse. On est sur les sommets sur le Dow Jones, 31 614 points. C'est le Nasdaq qui baisse de 0,58%, 13 965 points. Donc ce sont les valeurs de technologie qui soufflent, à l'image d'Apple qui recule de 1,7% ce soir, $130.84. De petites baisses à signaler sur Facebook, moins 0,1%. IBM, moins 0,1% aussi à $120. Cisco, moins 0,5%. Il n'y a pas de casse, hein. Tesla est stable. Le pétrole reste même assez ferme, à plus de $60 le baril WTI. Ça pousse Exxon un petit peu plus haut, plus 1,5%, Exxon à $52.85. Pourtant, Citigroup parle d'une correction possible du marché américain de l'ordre de 10% sur des craintes de retour de l'inflation. Des craintes qui n'inquiètent pas outre mesure la Réserve fédérale pour l'instant, même si les taux se tendent proche des 1,3% sur les taux à 10 ans aux États-Unis. À noter quand même le Bitcoin, hein, pour ceux que ça intéresse. encore plus haut, puisque c'est un nouveau record ce soir, à plus de 52 000 $. Mmh. Et sur les devises, c'est beaucoup plus calme. L'euro revient à 1,2040 face au billet vert.
Retour en France où la Bourse de Paris a elle aussi perdu du terrain dans le sillage du secteur du luxe.
Oui, la pause s'est prolongée à Paris en baisse de 0,36%. 5 765 points sur le CAC 40, toujours bloqué sous les 5 800 points. C'est Kering, effectivement, le groupe de luxe qui a plombé l'ambiance en repli de 7%, 524,90 €. Les ventes du groupe Kering ont baissé de 5% au dernier trimestre 2020 à 4 milliards d'euros. Gucci, la marque phare du groupe, a vu ses revenus chuter de plus de 10%, 10,3%. La fermeture de certains magasins en raison des restrictions sanitaires a pesé lourd évidemment sur la tendance. Les autres groupes de luxe limitent la casse quand même. Hermès, moins 0,7%, LVMH, moins 0,9% ce soir à 535 €.
Exception du jour, le secteur des médias est resté en vue en attendant les prochaines opérations de rapprochement.
Ça continue, beaucoup de rumeurs dans le secteur des médias qui s'agitent encore après l'envolée de Vivendi en début de semaine et le pactole attendu de l'introduction en bourse d'Universal Music. C'est au tour du groupe M6 de décoller de 12,7% aujourd'hui, 17,94 €. Les résultats 2020 ont bien résisté à la crise sanitaire avec une marge opérationnelle qui culmine à plus de 21%. La direction du groupe M6 appelle à des rapprochements dans le secteur pour résister à la concurrence grandissante des GAFA. De quoi contribuer à alimenter cette spéculation dans le secteur des médias. Sur les autres places financières, ça baisse un petit peu partout. Des baisses assez limitées. Hein. On a Bruxelles, moins 0,4%. Madrid, moins 0,3%. Milan perd quand même 1,2%. Et donc le CAC 40 en baisse de 0,36%. 5 765 points.
Merci beaucoup Didier Hamot de boursier.com et à demain. 22h22 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Bertrand Krug.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur du département Internet de Médiamétrie. Et si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que vous avez présenté ce matin une grande enquête sur nos usages d'Internet sur l'année 2020 et donc notamment sur la période des confinements. Alors on va entrer tout de suite dans le détail. Très nettement, notre consommation d'Internet a progressé sur cette année 2020 d'une quinzaine de pourcents, je crois. Quelle est la part de progression qui s'explique par le fait qu'on était bloqué à la maison et qu'on a beaucoup plus utilisé nos ordinateurs ?
Mais on peut dire que la progression naturelle des usages Internet est de 5-6% sur l'année, mais qu'avec la période de confinement, on a observé une hausse considérable. Figurez-vous qu'au mois de mars, avril, mai, la consommation Internet a bondi de 40% en termes de temps passé.
Donc on peut dire qu'on n'a jamais autant utilisé Internet que sur ces mois de mars-avril. C'est du jamais vu en France.
C'est du jamais vu. On a eu des pointes à plus de 3 heures par jour et par Français en ligne, donc sur ordinateur, mobile ou tablette.
Ah oui, c'est impressionnant. Alors je crois que le pic est à 21h. Avant d'entrer dans le détail, c'est classique un pic à 21h ou d'habitude c'est quand on est au travail, tout ce qu'on en est ?
Alors il y a des pics différents et selon les types de population. Donc le pic global est à 21h, chez les jeunes c'est un petit peu plus tard. Mais globalement, on consomme Internet tout au long de la journée avec des pics très, très forts au moment du réveil, des pauses et puis en soirée.
En tout cas, 21h, c'est l'heure du film traditionnellement à la télé. Donc ça montre bien aujourd'hui à quel point nos usages aussi ont muté. Parce que s'il y a un pic à 21h, c'est qu'une bonne partie d'entre nous se met par exemple devant le site qui propose des séries ou des films américains qui s'appelle Netflix.
Alors oui et non, parce que Netflix est consommé essentiellement très majoritairement en télévision. 70% des usages de Netflix se font sur l'écran de télé. Donc Internet, c'est une multitude d'usages et au premier rang de ces usages, on retrouve surtout les réseaux sociaux et les messageries.
Pourtant, si je reste un instant sur l'exemple de Netflix, on parle généralement en France de 8 millions d'abonnés pour Netflix. Quand j'ai regardé votre présentation ce matin, vous parlez de beaucoup plus d'utilisateurs.
Alors oui, en fait, ce n'est pas forcément 8 millions d'abonnés, c'est 8 millions d'abonnements. Et derrière un abonnement, il y a plusieurs utilisateurs. Donc on en dénombre en effet 19 millions. Ils ne sont peut-être pas tous considérés comme un abonné individuel.
Bertrand Krug, je rappelle que vous êtes le directeur du département Internet de Médiamétrie. Vous disiez il y a un instant que notamment le pic du soir s'explique par le pic des réseaux sociaux. Là aussi, c'est un des enseignements des crises que nous avons vécues. On pourrait s'en douter. Mais on a plus que jamais envoyé des messages à nos proches, à nos amis et donc plus que jamais utilisé nos réseaux sociaux.
Le premier jour du confinement, l'audience de ces réseaux sociaux et des messageries a doublé par rapport à la semaine précédente. Et les réseaux sociaux et les messageries pèsent plus d'un tiers de notre temps passé sur Internet. Chez les jeunes, c'est même plus de la moitié de leur temps passé en ligne.
Alors, ce qui est aussi intéressant dans l'étude que vous avez présentée ce matin chez Médiamétrie, c'est que ça en dit beaucoup sur nous. Qu'est-ce qu'on a fait lors de ces confinements? On a revu un petit peu notre intérieur, on a bricolé. Je crois que parmi les sites dont l'audience progresse assez nettement, il y a les sites de bricolage et plus globalement, et là aussi, ça dit beaucoup de sûrement la façon dont nous allons consommer demain, tout ce qui concerne le Made in France.
Oui, en effet, ce sont des tendances de fond, le bricolage a vu les audiences progresser très fortement pendant la période de confinement. Donc c'est à la fois des sites, des enseignes que l'on connaît tous, Leroy Merlin, Castorama, mais aussi des sites comme Mano Mano.
Qui est aujourd'hui le leader européen du bricolage en ligne.
Absolument. On a observé aussi une forte appétence pour les sites Made in France ou pour les sites locavores, ceux qui vont proposer de l'alimentation plus éco-responsable.
Ça, c'est sur toute l'année 2020, avec, j'imagine, des pics lors du premier confinement, mais c'est finalement des habitudes que nous avons prises et qui se voient sur toute l'année?
Mais oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on voit ce fort pic pendant le premier confinement, mais ces usages perdurent et bien au-delà du deuxième confinement. Donc, on est vraiment sur des nouvelles habitudes qui sont prises par les Français. Il y a une accélération, finalement, de la digitalisation de notre vie quotidienne à travers différentes activités. On a parlé de bricolage, de l'alimentation, mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines de services comme l'éducation ou la santé.
Tout le monde dit, en tout cas beaucoup de professionnels disent qu'on a gagné en numérisation de notre économie, en numérisation de nos usages, 3, 4 à 5 ans. C'est votre sentiment aussi ?
On a en effet le sentiment qu'il y a une accélération de ces usages et que ça perdure. Donc on va voir dans les mois qui viennent si c'est un effet de mode ou si en effet c'est vraiment implanté dans notre quotidien.
Alors ce qui s'est implanté dans notre quotidien, vous parliez de consommation il y a un instant, c'est bien évidemment le site Amazon. Là aussi, grâce à vous, on a des données du coup plus actualisées. C'est impressionnant la progression d'Amazon. 36 millions, c'est ça, de personnes qui sont passées sur Amazon?
36 millions chaque mois et le deuxième qui est Cdiscount est à 24 millions. Donc il y a un écart très considérable qui est creusé. Mais on observe quand même beaucoup d'enseignes françaises dans ces classements e-commerce avec des enseignes qu'on appelle multicanales, c'est-à-dire qui ont à la fois une enseigne physique et un magasin. Je pense à Carrefour, Leclerc, Darty, Leroy Merlin, Boulanger, qui sont des sites parmi les 15 les plus visités en France.
Alors j'imagine qu'à l'inverse, ça montre aussi tous les secteurs qui se sont arrêtés et que l'on a du coup beaucoup moins consommé. Traditionnellement, le site Oui SNCF pour acheter les billets de train fait partie des principaux sites de e-commerce en France. Là, j'imagine qu'il s'est effondré.
Alors, c'est sûr que les sites, que ce soit Booking, Oui SNCF ou Airbnb, ont un peu disparu des radars pendant cette période, même si on a vu des pics au moment où on a eu le déconfinement en France, notamment au mois de juin. Donc on voit très bien dans nos audiences, en tout cas, des variations qui sont liées, on va dire, aux décisions gouvernementales et sur la capacité à se déplacer dans le pays.
Et plus que jamais, cette fois pour conclure, ce qui a également été une des tendances de l'année dernière, mais qu'on connaît tous, mais qui s'est peut-être encore plus accéléré ou à un rythme plus rapide, c'est qu'aujourd'hui, notre ordinateur, c'est notre téléphone portable, c'est notre smartphone, c'est là-dessus qu'on consulte Internet.
Ah oui, c'est vraiment le paradoxe. On est dans un monde immobile avec des couvre-feux, le confinement, mais le mobile, le smartphone, n'a jamais été aussi puissant. Deux tiers du temps passé sur Internet se fait depuis un smartphone et c'est un temps qui a triplé en 3 ans. Donc le smartphone est vraiment aujourd'hui la porte d'entrée privilégiée vers Internet.
Eh bien, merci pour tous ces détails. C'était Bertrand Krug, le directeur du département Internet de Médiamétrie. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Duteil. On vous retrouve également demain à 13h dans La France Bouge avec Carole Ferry. Vous nous parlerez du boom des paris en ligne avec votre invité Cyril Linette, le patron du PMU. 22h29 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Islamo-gauchisme, Frédéric Vidal perd ses facultés, titre Libération. Je vous le racontais dans le journal, la ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé une enquête sur l'islamo-gauchisme au sein des universités, ce qui provoque un tollé dans les facs. Chasse aux sorcières, police politique, voilà quelques-unes des réactions des chercheurs et présidents d'universités atterrés par les propos de Frédéric Vidal. Le Figaro de son côté consacre sa une à la cybercriminalité. La France France durcit sa défense, titre Le Quotidien. Emmanuel Macron présente en effet demain un plan pour relever le niveau général de protection des acteurs publics et privés, de plus en plus confrontés à des attaques numériques. On l'a encore vu hier avec le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, victime d'une attaque d'ampleur. La semaine dernière, c'était l'hôpital de Dax. Bref, il est grand temps de réagir. Le chef de l'État va annoncer demain 1 milliard d'euros d'investissements supplémentaires d'ici à 2025. Et comme promis, on conclut ce journal de la nuit avec le foot, la Ligue 1, Marseille-Nice au stade Vélodrome où l'on vous retrouve, Stéphane Frangy.
Et toujours 3 buts à 1 pour l'Olympique de Marseille. On joue la 74e minute de jeu. Un match un peu particulier pour ces Marseillais, ce match en retard. Et l'entraîneur Nasser Larguet qui a fait le pari de la jeunesse et qui a fait appel aussi à des joueurs revanchards comme Kawi. Il a replacé Dimitri Payet dans l'axe dans une position de meneur de jeu. Paris gagnant. Marseille a fait un bon match. Je n'ai pas peur de le dire. Ça fait longtemps que Marseille n'avait pas été conquérant et a proposé des choses. Et ça marche. Voilà, 3 buts à 1. Marseille qui se dirige vers son premier succès en Ligue 1 en 8 matchs. De quoi respirer un petit peu.
Merci beaucoup Stéphane Frangy en direct du Stade Vélodrome à Marseille pour Europe 1. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Comment allez-vous?
Écoutez, ma foi, tout va bien.
39-21 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne qui débute donc maintenant et ce jusqu'à 1h du matin.
Exactement, et je vous dis à tout à l'heure, 23h pour le Flash Julien.
À tout à l'heure.